Donc, dans la première saison de la télésérie Série Noire, présentée à Radio-Canada en 2014, écrite par François Letourneau et Jean-François Rivard, on suit les tribulations de deux scénaristes fictionnels qui écrivent une série télé. Par son traitement humoristique, intertextuel et méta-réflexif, Série Noire se conçoit comme une parodie du film noir. On y reprend les codes hérités des films de détectives tout en y insufflant un désir de renouvellement quant à la représentation de la masculinité et des rapports entre les hommes et les femmes. Donc, je vais résumer rapidement Série Noire pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc, les deux protagonistes, Denis et Patrick, deviennent enquêteurs malgré eux afin de prouver leur innocence alors qu'ils sont mêlés au meurtre de Bruno, gynécologue le jour et chef de gang criminel la nuit. Endossant le rôle stéréotypé du détective privé dans cette sordide affaire de meurtre, les deux amis sont représentés comme des enquêteurs maladroits, immatures, aux spéculations loufoques, aux décisions discutables. Est-ce qu'ils s'inscrivent dans une dynamique du héros et du faire-valoir à l'image de Sherlock Holmes et du Dr. Watson, ou encore de Batman et de Robin? Non, pas du tout. En fait, ils sont deux faire-valoir en quête de héros. Ils sont ces losers du quotidien qui cherchent à redonner du sens à leur vie en jouant mal les Humphrey Bogart. Aussi, l'un des scénaristes, Patrick, tombe dans le piège éculé de la femme fatale, ici représentée par une prostituée nommée Charlène, qui le séduit et le trahit pour mieux arriver à ses fins. Contrairement aux personnages féminins des films noirs classiques, Charlène n'est pas ici le bouc émissaire des femmes qui cherchaient à s'émanciper dans l'Amérique de l'après-guerre. Elle incarnerait plutôt la frontière poreuse entre la vérité et le mensonge, la réalité et la fiction, qui lance les deux détectives, adolescents archétypaux du 21e siècle, dans un bovarisme des plus extravagants, afin d'échapper à leur monotone responsabilité. Donc, je vais commencer par cerner les champs d'études théoriques, donc l'étude cinématographique du film noir et l'étude de la parodie, comme une pratique protéiforme. Ensuite, je vais me pencher sur une analyse en deux temps des personnages de scénariste et du personnage de la prostituée, afin de comprendre en quoi cette parodie du film noir en est une qui subvertit une certaine masculinité dans le Québec des années 2010. Donc, faisons tout d'abord un bref parcours historique du film noir aux États-Unis, des années 40 à aujourd'hui. En reprenant certains termes et certaines caractéristiques visuelles du film de gangster qui fascinait l'Amérique depuis les années 20, et en reprenant certaines caractéristiques du film noir, du roman noir, qui paraissait au même moment, le film noir classique apparaît durant la Seconde Guerre mondiale. Ce genre cinématographique prend pour assise l'intrigue criminelle et le décor urbain inhospitalier, avec un personnage masculin désabusé. On voit surgir dans les films noirs des agents doubles, des policiers tourmentés, des femmes fatales ou encore des détectives privés désabusés. À l'aube de la guerre froide, alors que plane la menace nucléaire, le bien et le mal ne sont plus aussi clairement distingués qu'autrefois. Le privé du film noir est un « wee guy », comme le surnomme Jean-Pierre Esquenazi, qui succède au dur à cuire des films de gangsters. Le « wee guy » est un personnage nihiliste qui se retrouve le plus souvent englué dans une affaire sordide dont la conclusion est vaseuse, pour ne pas dire absurde. Il n'y a pas de résolution des tensions dans le film noir. Tout reste ambigu et incertain. Delphine Letort, qui est une spécialiste du cinéma américain, souligne combien le détective privé des années 40 et 50 incarnait un certain idéal de masculinité, avec un érotisme frappant et des valeurs morales telles que le sens du devoir et le sens de l'honneur. Elle remarque pourtant combien l'enquêteur dans le film noir d'après 70, le cinéma postmoderne qu'on a appelé le néo-noir, est quant à lui fragilisé, voire féminisé, ainsi représenté comme, je la cite, « un anti-héros sans héroïsme ». Façonné par un environnement matérialiste et un effondrement des traditions communautaires. Dans une société dont l'ordre social a été chamboulé, entre autres par la deuxième vague de féministes des années 60 et 70, le héros du film néo-noir dévoile alors une vulnérabilité nouvelle et une masculinité beaucoup plus nuancée. Donc, j'aborde maintenant le deuxième champ d'étude théorique, c'est-à-dire la parodie. Donc, en son sens étymologique, en provenance du grec ancien, la parodie signifierait « contre-champ », c'est-à-dire un champ parallèle à un autre, un champ déplacé qui détonnerait. On a attribué à la parodie en alternance une connotation positive, ludique, ou encore une connotation extrêmement négative en l'associant à des concepts comme la destruction des classiques ou encore une pratique polémique. Donc, je résume brièvement l'évolution de la parodie au 20e siècle grâce à une citation de Daniel Sansu. Ça va comme suit. La parodie, autrefois, apparaissait généralement comme une activité polémique et satirique, retournant des thèmes et des formes, s'attaquant aux défauts d'un auteur ou d'un genre, subvertissant le patrimoine culturel à travers le rire. Les formalistes russes parlaient d'ailleurs de destruction, mais aussi de combat entre textes parodiants et textes parodiés. Et Bakhtine parlait de dénonciation ainsi que de destruction. Plus récemment, Margaret Rose et Linda Hutcheon relèvent toutes deux l'ambivalence et même la contradiction de la parodie, qui est à la fois révolutionnaire en ce qu'elle conteste, raille et détourne les modèles, et conservatrice dans la mesure où, même en les contestant, la parodie perpétue ses modèles. Donc, la parodie raille, détourne, déconstruit, critique, transcende à travers le rire. Le combat entre les textes, entendu ici au sens conceptuel, n'est pas toujours remporté par le texte parodiant. Même en contestant les modèles, comme l'évoquent Rose et Hutcheon, on reconduit une certaine tradition idéologique ou encore formelle. Donc maintenant, comment ça s'inscrit tout ça dans la série noire? Donc, le film noir s'inscrit dans la télésérie de François Letourneau et de Jean-François Rivard sur le mode parodique. Le titre même de la série, plus qu'un clin d'œil, rappelle explicitement le genre dont elle s'inspire à la manière d'un hommage, m'annonçant tout de suite qu'on n'est pas dans un film noir, mais bien dans une série noire, donc une reprise de ça. Cependant, Denis et Patrick, comme on l'a déjà mentionné, n'ont rien de héros. Ils sont plutôt des losers, figure que Delphine Le Thor a retrouvée ponctuellement dans le genre néo-noir. Au sein des récits narratifs, ces losers sont parfaitement intégrés dans la structure sociale. Ils occupent le plus souvent un emploi, sont entourés d'une famille, mais ils se nourrissent de rêves qui font naître en eux le sentiment d'une frustration et d'une insatisfaction permanente. D'ailleurs, selon Sylvia Harvey, la frustration et le non-accomplissement du désir est l'une des caractéristiques fondamentales des personnages de films noirs. D'après elle, nous avons affaire à des héros frustrés, aliénés par une existence familiale routinière et par le couple monogame à la sexualité fade. Donc, ces héros cherchent des soupapes idéologiques en s'engageant délibérément dans des aventures hors de leur ordinaire, que ce soit des affaires criminelles, extra-conjugales ou autres. Dans Série Noire, Denis et Patrick, nos deux scénaristes, sont effectivement parfaitement intégrés dans la société. Ils ont des familles, des emplois, des revenus stables, mais en somme, sont-ils heureux? Non, pas du tout. Les scénaristes sont blasés par l'existence tranquille qu'ils mènent. La tension n'est plus entre les valeurs traditionnelles et le renversement de l'ordre social, ni même entre le bien et le mal, comme on l'a vu dans le cinéma noir à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. La friction est plutôt ressentie lorsque s'entrechoquent le quotidien et le rêve, la vérité et le mensonge, et même la réalité et la fiction. Ce choc est fréquent dans le néo-noir. Il est d'ailleurs souvent un motif d'action. Je cite à nouveau Delphine Le Thor. Les personnages de losers croient pouvoir changer leur image pour correspondre à un modèle de réussite sociale tel qu'il nous est proposé dans les divers médias. Donc, les rêves et les aspirations de Denis et Patrick sont imprégnés de cinéma. Ce sont là les divers médias que mentionne Le Thor. Par exemple, on retrouve multiples références au cinéma américain dans la télésérie, le titre, premièrement, aussi dans les décors. Par exemple, il y a des affiches de films au mur dans les appartements des deux protagonistes et encore des références dans les dialogues. Nos deux scénaristes fictionnels rêvent de marcher dans les traces du détective interprété par Harrison Ford dans Blade Runner ou encore de Richard Gere dans Pretty Woman ou encore de Han Solo dans Star Wars, lui aussi interprété par Harrison Ford. Donc, ces trois exemples sont tirés des épisodes 11, 5 et 7 de la télésérie. Action, virilité, héroïsme, érotisme, voilà les modèles qu'impose le cinéma américain aux deux hommes. Ils se lancent sur la piste d'un gang criminel afin de justement secouer leur existence bourgeoise, d'inspirer leur démarche créatrice de scénariste et, par le fait même, de redonner du piment à leur vie amoureuse. Cela nous rappelle alors Emma Bovary et le trouble qu'on a appelé le bovarisme, selon le célèbre adage de Jules de Gaultier. Je cite « Le bovarisme est le pouvoir qu'a l'homme de se concevoir autre qu'il n'est. » Puisqu'Emma Bovary avait lu des romans à l'eau de rose, elle entretenait un rapport dysphorique avec la réalité. Elle voulait plus. Elle rêvait de grandes passions amoureuses, d'ascension sociale, et elle s'est trouvée déçue par sa réalité si extraordinairement ennuyeuse. Emma, Denis, Patrick haïssent le réel parce que, je cite le philosophe Louis Vial, qui a étudié et commenté le bovarisme, ils haïssent le réel peut-être parce que le réel nous donne l'impression du stable, du définitif, et que nous avons peur du stable, du définitif, comme s'il avait les nuances de la mort et nous faisait pressentir, appréhender la chute dans l'inconscience. Le bonheur nous paraît toujours résider là où nous ne sommes pas, dans le passé, dans l'avenir ou dans les circonstances et les paysages différents de ceux où nous vivons, parce que notre présent est toujours encombré de soucis, de gênes, de souffrances vives ou d'obscurs malaises. Fin de la citation. Les deux auteurs tentent d'échapper à ces soucis, ces obscurs malaises du stable et du définitif, donc cette réalité frustrante des relations de couple, de la vie de famille, du travail de 9 à 5, les soucis du monde adulte. Le stable, le définitif, fait peur aux adolescents qui baignent depuis toujours dans la culture populaire et qui ne sont pas prêts à s'engager dans l'infâme réalité. Ils sont frustrés par le présent et ils choisissent de fuir leurs responsabilités pour une fiction improbable, là où ils espèrent trouver un bonheur qui leur échappe autrement. Comme le disait un personnage fantasque de série noire, Marc Arcan, alors je cite, « Reality is a motherfucker, create your own ». Toutefois, comme dans les films noirs classiques, la résolution des conflits à la fin de la première saison de série noire pour les personnages de Denis et Patrick est plus qu'ambiguë. Ils ont échappé au joug du gang criminel, ils ont lavé leur nom auprès de la justice, ils ont sauvé leur poste de scénariste, mais ils connaissent pourtant l'échec sur le plan affectif. Patrick est tombé dans le piège éculé de la femme fatale, et Denis est quant à lui quitté par sa femme, Judith, qui ne l'aime plus depuis longtemps. Vérité et mensonge, succès et échec s'entremêlent, laissant nos deux personnages sur une fin douce amère. La chute dramatique, quoique ambivalente, est causée par les relations amoureuses où l'intimité et la vulnérabilité, en opposition à une virilité franche, sont synonymes de danger. Samantha Lintop, qui est spécialiste du cinéma américain et des gender studies, note une forte influence dans le genre néo-noir des courants post-féministes et néolibérales. On représente dans les films néo-noirs des personnages féminins inspirés des discours d'autonomie et d'autodétermination de la deuxième vague de féminisme et qui sont fortement influencés par un individualisme assumé. Selon Lindop, les individus du néo-noir sont devenus, dans le contexte néolibéral, les entrepreneurs de leur propre vie. Ils sont des consommateurs de masse qui cherchent le profit individuel avant toute chose, même dans les relations personnelles et sociales. On revient maintenant au Black Friday. Charlène est à cet égard la femme fatale néo-noire par excellence. Travailleuse du sexe décomplexé, au langage relâché et aux expressions colorées, elle est manipulatrice et use de son charme pour arriver à ses propres fins économiques. Elle est la soupape idéologique de l'adolescent bourgeois qui s'ennuie dans sa vie d'adulte responsable. Si le bovarisme est la faculté départie à l'être humain de se concevoir autre qu'il n'est, Patrick transfère cette faculté sur Charlène. Il parvient, selon les termes de Jules de Gautier, à falsifier sa subjectivité et ainsi à falsifier l'être intime de qui il fera le personnage principal de son rêve sentimental. Donc, falsifier vraiment au sens de altérer, rendre faux et même au sens de tromper, parce que Patrick, effectivement, se trompe lui-même. Comme Emma Bovary imaginait ses amants plus grands que nature, dignes des romans à l'eau de rose dont elle se gavait, Patrick parvient à appliquer sur Charlène le filtre du prince charmant et de la femme en détresse tombée dans l'enfer de la prostitution. Il parvient à se concevoir comme le héros d'une comédie romantique à la Pretty Woman. Il n'est pas anodin non plus qu'il offre à Charlène l'entièreté de ses REER pour qu'elle puisse payer ses dettes. Il est prêt à sacrifier les économies qu'il a accumulées grâce à sa vie insipide de professeur de cégep et de scénariste médiocre afin de poursuivre auprès de Charlène une vie exaltante. Donc oui, Charlène a menti. Elle a joué le jeu du bovarisme en interprétant le rôle que Patrick voulait lui faire tenir dans sa fiction personnelle et elle en a tiré des milliers de dollars. Elle a été l'entrepreneur de sa propre vie sentimentale à l'image de la vamp néolibérale. Elle incarne ainsi la frontière poreuse entre la vérité et le mensonge et surtout l'échec d'une pareille échappée dans la fiction. Invariablement, les personnages féminins des films noirs et néo-noirs sont des menaces en puissance dans l'équilibre fragile d'une société à l'hégémonie patriarcale et à l'individualisme férocement revendiqué. Patrick, qui se croyait héros de cinéma, se révèle plutôt un amoureux abandonné et floué, vulnérable, fragilisé et donc ainsi féminisé. La parodie du détective privé viril et violent et de la femme fatale manipulatrice met donc en lumière l'échec inévitable du bovarisme, cette invasion dans le fantasme dont on a caractérisé le loser du néo-noir, tout en reconduisant une crise de la masculinité postmoderne, celle des hommes en proie à des frustrations et à des insatisfactions étouffantes vis-à-vis d'un quotidien insipide. Emma Bovary et nos deux scénaristes se représentent autres qu'ils ne sont, mais pourtant, ils échouent à atteindre leur idéal personnel, ce qui, dans Série Noire, donne l'effet parodique. Je cite de nouveau Louis Vial. Pour se mettre en règle avec les exigences du milieu social, éviter le mépris, mériter l'estime d'autrui et la sienne propre, le sujet se donne de lui-même une représentation inexacte et s'efforce de jouer sincèrement et plus ou moins fidèlement le personnage. Parfois, cette imitation n'est qu'une parodie. Le sujet s'épuise vainement à réaliser en lui-même des pensées, des sentiments, à exécuter des actes dont il est incapable. Fin de citation. Denis et Patrick offrent une parodie du personnage qu'ils croient incarner afin de mériter l'estime de leurs proches. Ils imitent les détectives virils, les gangsters violents, les scénaristes inspirés, mais, par leur incompétence et leur manque d'habileté, ils ne font que mettre en évidence leur vulnérabilité, leur mésadaptation sociale et leur désengagement face au travail, à la famille et, en fin de compte, face à la réalité. Ils sont des losers, des adolescents en crise. Charlène, qui reprend les codes de la femme fatale sur le mode humoristique, incarne parfaitement cette tension entre la vérité et le mensonge et s'évade finalement du monde de la prostitution en manipulant les sentiments de Patrick. Aussi, Judith, la femme de Denis et la seule enquêtrice compétente dans l'affaire du gang de rue, décide de quitter son existence frustrante et ennuyeuse auprès de son mari et peut-être même le couple hétérosexuel en général, afin de s'épanouir autrement. Est-ce que les personnages féminins dans Série Noire ont justement réussi à transcender la figure du loser, telle qu'incarnée par Denis et Patrick? Est-ce qu'une recrudescence des luttes féministes dans la société québécoise des années 2010, combat plus ou moins invisibilisé dans les années 90 et début 2000, vient façonner différemment la parodie du film noir postmoderne? Ou, à l'inverse, est-ce que la conclusion dramatique et vaseuse pour les personnages masculins, qui, somme toute, sont les têtes d'affiche de la télésérie, ne vient-elle pas condamner idéologiquement l'audace et l'agentivité des personnages féminins? Donc, on est là dans la parodie. Entre révolution et perpétuation des traditions formelles et idéologiques, la parodie laisse les spectateurs et les spectatrices incertaines. Voilà.